bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Parlons Foot 97.9 FM Fréquencié en présence de Valentin, Enzo et Elliot comme toutes les semaines. Aujourd'hui nous allons parler forcément des matchs internationaux avec notamment le match de l'équipe de France contre l'Albanie, nos réactions. On va parler sans oublier la Coupe de France, l'incontournable Coupe française avec quelques surprises ce week-end. Et puis il y aura un petit sujet sur Nantes et des pronostics aussi pour là, tout ça dans notre émission. On va commencer par la Coupe de France avec les résultats. Donc Angers donc, qui explose tout simplement à Agentré 10-0. Saint-Berthevin s'incline 7-0 contre Laval, score logique. Limonest s'incline donc 5-2 contre Sochaux. Le match entre Pontivy et Poiré a été remis. Aix qui affrontait Arles-Avignon, Arles-Avignon a eu du mal à se séparer d'Aix et c'est en fin de deuxième période que cette équipe s'impose 4-0. Le Paris FC s'impose 1-0 contre Fontenay en prolongation. Arras a éliminé 2-0 contre le GFCA d'Ajaccio, plutôt logique puisqu'il y a le championnat. Cette équipe est bien placée et il fallait choisir quelque chose. Le maintien, peut-être un espoir de monter, qui sait. Qu'en pensez-vous ?
Jouer la coupe c'est toujours bien, je pense. Ça aurait pu leur apporter de l'argent. Déjà rien qu'aller en 32e de finale c'est pas mal. Tant pis, ils l'ont pas fait.
Autre match, Avranches qui a gagné 6-1 contre Jumeau-Soisia. Bressuire qui éliminera Vertou 2-1 après prolongation. Ainsi que Dachheim qui se fait éliminer par l'équipe finalement habituée au gros. C'est Saint-Maur-Lusitanos qui jouait au stade de Dominique Duvauchel contre son voisin Créteil-Lusitanos. Saint-Maur menait déjà 3-0 à la mi-temps, puis ensuite réduction du score par Créteil, par le Sage.
Ils sont revenus à 3-3.
Voilà,
et
4-1 ensuite, et ensuite ça fait 4-3. Et enfin, voilà, il y a un magnifique coup franc de le Sage qui a toujours son pied, mais malheureusement, élimination des Cristoliens. Ensuite, dans les autres matchs, Saint-Brieuc qui affrontait Plabennec s'incline 4-1, Trouville-Deauville s'incline 3-1 contre Le Havre. Là, c'est Ajaccio, s'est fait peur. Il ne s'est imposé que 1-0 contre l'équipe historique du championnat de France, Alès. Brive s'est fait éliminer 5-0 par Luçon. Châteaubriand, lui, se qualifie après prolongation. Niort, dans la foulée, éliminera Chauvigny. Valenciennes a mis du temps à se séparer de Maubeuge. Vitré, qualifié. Dijon a éclaté Vichy 9-0. Brest, lui aussi, qualifié. Saint-Lô, qualifié. Hier, Pontivy Saint-Louis a fait match nul et on n'a pas les résultats des tirs au but. Cholet qui a éliminé donc les Aiglons, Nîmes qui se qualifie dans la douleur, Plouvorne qui élimine Bonchamp, donc il n'y a plus qu'une équipe mayennaise alors qu'elles étaient trois au départ de ce 7ème tour. Carquefou lui qui s'est qualifié au tir au but. Le Mans FC a éliminé Blois dans la difficulté, but sur coup franc de Tertereau. Lone Plage s'est qualifié face à Hérouville, Clermont se qualifie, Guyenne se qualifie, Tours se qualifie dans la difficulté, Nancy se qualifiera lui certes 3-0 mais aussi dans la difficulté, et Concarneau se qualifie. Donc voilà pour les résultats. Donc justement en parlant de Coupe de France, il y a eu ce week-end donc Le Mans qui affrontait Blois, et donc la réaction de l'entraîneur Manceau. Donc voilà, les joueurs du Mans espèrent aller jusqu'en 32e de finale. Le président Jean-Pierre Pasqui avait dit qu'il aimerait bien affronter un gros au MM Arena, mais que ce serait bien de passer quelques tours justement au point de vue financier, puisqu'on sait qu'il manque de l'argent toujours au club. Donc voilà, donc la réaction du Maine, c'est essayer d'atteindre les 32e de finale. Voilà ce qu'a dit Jean-Pierre Pasquier. Thibaut Ferrand normalement a dit, je cite, on ne va pas faire la fine bouche, on est au 8e tour, il n'y a que ça qui compte. On a quand même, je trouve, un match plutôt intéressant contre une bonne équipe de DH qui n'est pas deuxième de son championnat pour rien. C'est aussi toute la difficulté de ces matchs de coupe. On était dans une spirale de non-victoire depuis quelques temps. On avait besoin de gagner pour se rassurer. Cette victoire est très importante pour la suite de la saison. On a fait des matchs en jouant mieux que ça, mais on a perdu. Donc on voit l'envie des morceaux d'aller au moins en 32e, pourquoi pas pour affronter une Ligue 1 au MMA.
Puis ils ont plutôt un tirage favorable, hein. Tomber contre une DH, bon. Ça me semble prenable.
Pas simple, hein. Les tours, apparemment, ils étaient tout le temps tombés sur des équipes inférieures à la CFA2. Donc,
Et on se rappelle aussi qu'ils s'étaient inclinés face au Poiré Survie au MM Arena de Buzyn, le Mans, il y a eu quelques années.
Espérons que ces tirages chanceux continuent.
Mais pourquoi pas voir déjà un premier exploit Parce que quitte à ce qu'il y ait une équipe de Ligue 2 dès le 8ème tour, pourquoi pas voir le Mans battre Laval. Ce serait un très beau match déjà pour commencer. Un derby qui pourrait remplir, pourquoi pas, la moitié du stade.
Ça me semble compliqué.
C'est un derby qui refait penser à la Ligue 2.
Ouais, mais de là, remplir la moitié du stade...
Bah, de 2000 supporters déjà pour un match de CFA 2, un match de Coupe de France contre une équipe de Ligue 2, ça fait bien la moitié. Et contre une équipe de Ligue 1, ça peut faire guichet fermé, quasiment.
Ça dépend de l'équipe de Ligue 1.
Ça dépend de l'équipe de Ligue 1. C'est sûr que si c'est Guingamp ou Rennes, c'est des matchs...
Rennes, tu m'aurais dit
Évian, oui.
En plus, Rennes, c'est pas loin, c'est la Bretagne. C'est voisin, donc les Rennes. Les Rennes n'hésiteront pas trop à se déplacer non plus. Donc.
Mais par contre, c'est sûr que s'ils vont affronter une équipe de Paris, Marseille, Lyon, là, il va y avoir beaucoup plus de gens tenter de venir voir. Mais déjà, on retrouvera une certaine atmosphère, un match contre une équipe de Ligue 2 ou une petite équipe de Ligue 1. Les tirages au sort du 8ème tour, ce sera ce mercredi. Donc, pour la suite. Le 8ème tour se déroulera le dimanche 7 décembre. Les 32e de finale, ce sera le samedi 3 et le dimanche 4 janvier 2015. Les 16e seront le mardi 20 et 21 janvier. Les 8e, eux, se dérouleront le mardi 10 et mercredi 11 février. Les quarts de finale, eux, se dérouleront le mardi 3 et mercredi 4 mars. Pour les demi, ce sera le mardi 7 et le mercredi 8 avril. Et enfin, la finale au Stade de France, le 30 mai. Voilà pour... ce qui est donc de la Coupe de France. A noter aussi que l'équipe féminine du Mans s'est imposée 2-0 et 4ème avec 8 points d'écart sur Yzeure, expansionnaire de D1 féminine. Donc voilà pour les résultats. On va passer donc, je vais parler un peu Ligue 1 et puis ensuite Elliot nous parlera des pronostics et puis ensuite on ira donc sur les ligues étrangères. Et donc voilà. Donc on va parler de Nantes, un petit sujet intéressant, puisque c'est vrai que Nantes est une surprise de ce début de saison. Donc l'objectif reste le maintien comme la saison dernière. Ils seront montés, ils avaient l'objectif pendant 2-3 ans. C'est donc toujours le cas. S'ils peuvent faire une petite aventure en coupe, ça leur ferait plaisir. C'est ce qu'ils ont dit. Donc voilà, ils s'attendent à une saison difficile et ils s'attendaient à une saison difficile de championnat. Comment trouvez-vous Nantes depuis ce début?
Ouais, mais c'est dans la continuité. Hein. L'année dernière, ils n'avaient pas recruté. Ils ont perdu Georgievic,
qui jouait pratiquement plus à la fin de la saison.
Qui ne jouait plus.
Ils se sont maintenus sans lui, quelque part.
Bamou, qui est une surprise, j'ai envie de dire, oui. Qui remplace bien Georgievic.
Oui, et puis pour être une surprise, c'est une surprise, puisqu'il était vendeur de la boutique du Paris Saint-Germain. C'est là où ils se sont rencontrés la première fois. Donc voilà, ils veulent rester vigilants et humbles. Est-ce qu'on peut voir Nantes avoir la Ligue Europa cette année? Dans la posture et le jeu qu'ils proposent.
C'est possible, après il faut juste qu'ils continuent parce que pour ce début de saison ils sont bien classés quand même. 23 points la 13ème journée, c'est pas mal.
Donc on rappelle, interdit de recrutement, les Canaries devaient faire avec les moyens du bord pour rester compétitifs. La mission semble accomplie.
Pour jouer l'Europe l'année prochaine, ça m'étonnerait parce qu'ils n'ont pas encore l'effectif.
Pour le maintien, oui.
Pour le maintien, c'est assuré, enfin pour moi. Et aussi, autre point, c'est qu'ils n'ont pas encore joué tous les gros. Paris, ils n'ont pas joué. Lyon, ils n'ont pas joué. Marseille, ils n'ont pas joué.
Oui, ils s'apprêtent à rentrer dans le dur. Hein. Ils vont
voilà, c'est pour ça. Pour l'instant, ils n'ont pas eu de gros matchs. J'attends de les voir sur
déjà, ils vont recevoir Saint-Etienne. Ensuite, ils vont aller au Vélodrome affronter Marseille. Ils vont enchaîner avec la réception de Toulouse. Puis un déplacement au Parc des Princes contre le PSG.
Des équipes pas faciles. Donc j'attends de les voir sur ces 4 matchs.
Qui va animer les rangs du club des Pays de la Loire.
Mais espérons qu'ils continuent comme ça, parce que là j'ai le classement des matchs à l'extérieur. Nantes sont quand même 3ème derrière Marseille et Paris.
Marseille c'est la mieux. Et c'est une très bonne équipe à l'extérieur. À domicile,
on va dire qu'elle tient tête à Paris.
Par contre à domicile elle est juste en milieu de classement, 10ème. À domicile c'est moins bon qu'à l'extérieur.
Nantes, oui.
C'est pourtant étonnant parce que là, Beaujoire met pas mal d'ambiance et le 12e homme est présent.
Bah, ils ont gagné seulement 3 fois à domicile.
Et perdu
3 victoires, 3 nuls et une défaite.
Oui, donc voilà pour les Nantais. Mais après, justement, on parle de cette interdiction de recrutement. Les résultats sont là quelque part. Le FC Nantes, s'ils avaient allé en Ligue Europa, ils auraient les finances quelque part puisque ça fait un an d'économie.
Bah oui, ça c'est sûr.
Donc il y aurait un effectif étoffé. Nantes pourrait être compétitif et pour la Coupe d'Europe et quelque part pour le championnat, grâce à leurs économies. Qu'en penses-tu, Valentin?
Bah, si Nantes pouvait être en Coupe d'Europe, oui, mais bon, après, le maintien, ils le font d'abord.
Oui. Donc, la situation de Nantes, ils sont classés 5e de Ligue 1 avec 23 points. On retrouve Nantes aux avant-postes de l'élite du football français, mais rien n'est gagné. Le FC Nantes a dû trouver une solution interne puisque le club ne peut pas recruter donc jusqu'à l'été 2015. Grâce à une solidarité visuellement palpable, à une défense solide, le FC Nantes a pour le moment la deuxième meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 9 unités encaissées. C'est un point positif quand ils vont affronter déjà Nantes, Marseille, Paris et Toulouse.
Puis c'est une défense centrale qui est vraiment très costaud hein, l'année dernière aussi. Viscarando, Djiloboji,
bon, après,
les latéraux sont pas mal non plus. Hein. Sissoko, Vegno.
S'ils font comme l'année dernière et qu'après, dans la deuxième partie de saison, ils perdent beaucoup de matchs, ils vont se retrouver dans la deuxième partie de tableau, alors que ça a fait de la première saison pour.
Ils font un meilleur départ que l'année dernière.
Ils font un meilleur départ que l'année dernière.
Même s'ils avaient été très bons
parce
aussi.
Parce que là, à mon avis, à l'hiver, ils seront dans le top 10.
Comme l'année dernière.
Oui, c'était juste après l'hiversaire qu'ils avaient chuté. En tout cas, les Canaries viennent bousculer le peloton de tête et ne sont plus qu'à 17 points du maintien. L'objectif affiché par le board nantais pour cette saison risque d'être réalisé.
Après,
pourquoi
pas
mieux ?
Je pense que si fin janvier, début février, ils devaient déjà avoir leur maintien, pourquoi pas viser plus haut et peut-être d'arracher déjà une qualification.
Et le fait que ce soit une des meilleures défenses du championnat, c'est encourageant pour affronter les gros, comme on l'a dit. Donc voilà, pour le FC Nantes, on va passer au pronostic avec Elliot.
Donc en Ligue 1, samedi à 20h, Guingamp-Rennes.
Le derby breton ?
Oui, un gros derby breton, oui.
Moi, je pense que Guingamp...
Rennes assez en forme en ce moment.
Aussi, oui.
Guingamp moins.
Moins.
Même s'ils sont rattrapés par l'Europe. Hein.
Puis oui, mais je pense que le match qu'ils ont fait contre Lyon, c'est pas un manque de, c'est pas un manque d'effort physique. C'est un manque d'attention sur les premières minutes du match qu'ils ont complètement loupé. Et pourtant après l'envie était là, mais c'est vrai qu'ils ont raté leur début de match. C'était mou.
Après jusque là les derbys bretons n'ont pas été grandioses hein, parce que Rennes-Lorient n'a pas été ça. Pourquoi celui-là pour rattraper, pourquoi pas, mais moi je veux bien un match nul.
Moi, je
avec des buts.
Moi je pense que Guingamp justement doit réussir à s'imposer justement les rentrées de trêve internationale. Donc justement je pense que Guingamp doit gagner, c'est un bon point, ça serait 3 bons points pris avant les matchs de Ligue Europa qui s'annoncent la semaine prochaine.
Moi je vois bien un bon match nul pour que Guingamp se remette dedans.
Un match nul ennuyant, comme
là c'est pas Rennes, c'est un Guingamp.
Ouais, mais pour l'instant tous les derbys bretons
s'il
étaient ennuyants.
S'il y a une pelouse bien grasse, ça peut être d'habitude le
jeu ne sera pas là.
Donc dimanche 14h, comme tu l'as dit Liane tout à l'heure, Nantes-Saint-Etienne.
Nantes, Saint-Etienne va mal, ils enchaînent beaucoup de matchs nuls en Europe. Puis en championnat ils ont du mal à gagner, donc moi je vais une victoire de Nantes.
Moi je pense que ça va faire match nul. Ils font exactement les mêmes choses en championnat que ce qu'ils font en Europe. Ils se contentent du peu, je trouve. C'est dommage. Mais je pense que ça fera match nul. À 14h, tu as dit ?
14h, oui.
Ça va se disputer tôt. C'est parti.
Pour moi, match nul parce que Nantes reste une bonne équipe et Saint-Etienne aussi.
Nantes à domicile. Et enfin, à 21h, Marseille-Bordeaux. Gros match.
Match nul.
Victoire de Bordeaux.
À Marseille, ce sera Marseille pour moi.
Marseille au Vélodrome. On va passer à la Ligue 2. En Ligue 2, Gazélec d'Ajaccio, Laval.
Match nul. Ça fera le 11e de Laval cette saison. Match nul.
Laval est sur une série de matchs nuls. Le GFCA a joué en coupe et donc s'est incliné. C'est compliqué, mais je les trouve de plus en plus fébriles, tandis que les Lavallois, c'est vrai, sont sur constamment se contentent du minimum avec un match nul.
C'est dommage pour eux parce qu'ils pourraient.
Ils s'accrochent quand même les gros. Ils ont fait match nul contre Troyes, contre Brest, contre Dijon. Ils ont match nul aussi contre Dijon, je pense. Donc ils accrochent les gros. Après, c'est vrai qu'ils ont du mal à gagner aussi.
Et moi, je pense que Laval justement doit avoir un déclic par rapport à Châteauroux. C'est difficile de gagner contre les équipes corses. Ça se joue à Laval, c'est ça ?
Non, à Ajaccio.
À Ajaccio, donc bon, ça va certes se jouer en Corse, mais je vois bien une petite victoire 1-0. Je pense que c'est surtout au Gazélec, c'est difficile qu'il y ait un match nul. Moi, je pense qu'il faut toujours un gagnant quand le Gazélec joue à domicile. Et donc, bon, je choisis Laval.
Pour moi, ce sera plutôt le Gazélec.
Pour moi, ce sera un match nul parce que Laval est sur une dynamique de match nul.
Le Havre-Sochaux.
Sochaux.
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 Sochaux, moi aussi. Et enfin, le gros match, lundi 3, Nancy.
Incontestablement, c'est un match très, très compliqué.
C'est à 3, donc le synthétique ne va pas jouer.
C'est pas un... À 3, c'est pas un... C'est un...
Non, c'est un...
Un hybride, c'est, voilà.
C'est pour ça que je dis ça. Le synthétique ne pourra pas fausser
oui, les Troyens. Je pense que la prestation... Alors bon, par contre, il faut le souligner, hein, les Nancéens ont mis beaucoup de joueurs au repos. Ils ont joué avec une équipe B, d'ailleurs, à Bonceau, Bourgogne. Et donc, moi, je vois quand même une victoire troyenne, parce que c'est vrai que les matchs du lundi et du samedi après-midi sont parfois ennuyeux. Mais voilà, ce sera un petit score, un match ennuyeux, je pense. Enfin, ennuyeux, non, il y aura sûrement des actions, remarque, entre Troyes et Nancy.
Un match animé avec pas mal de buts et un match nul.
Match nul pour moi.
Match nul.
Victoire de 3 pour moi. Merci Elliot. Donc voilà, on va passer avec Valentin maintenant qui va nous parler de la CAN.
Mais quelle est la qualification à la CAN? Où il y a déjà plusieurs pays qualifiés et la CAN n'aura pas lieu au Maroc. Hein. Ils ont été disqualifiés parce qu'ils n'ont pas voulu maintenir la compétition chez eux. Alors ça sera en Guinée équatoriale.
Est-ce que la Guinée va partager le tournoi avec le Gabon comme le...
Moi j'ai vu que ce serait que la Guinée équatoriale.
Que la Guinée, parce qu'on sait que les infrastructures ne sont pas pour l'instant au niveau réel d'une compétition telle et qu'ils avaient justement, lorsque le Gabon accueillait, partagé les stades. À suivre dans les prochains jours, à mon avis.
Alors dans le groupe A, l'Afrique du Sud s'est imposée 2-1 contre le Soudan et par la même occasion s'est qualifiée pour la CAN. Hein, et le Nigeria s'est imposé 2-0 contre le Congo. Et le Nigeria n'a pas encore qualifié avec le même nombre de points que le Congo et le Soudan lui est déjà éliminé. Dans le groupe B, l'Algérie, lui, est qualifiée en faisant toujours un sans faute. Hein, ils ont battu l'Éthiopie hier. Et le Mali, lui, a le même nombre de points que le Malawi après leur défaite 2-0. L'Éthiopie peut encore se qualifier. Hein, ils ont que 3 points de retard sur le Mali qui est deuxième. Dans le groupe C, le Burkina Faso s'est imposé 1-0 contre le Lesotho et le Gabon a fait match 0-0 contre l'Angola.
Dommage. Mais l'Angola, si je ne me trompe, est en haut de tableau.
Ils sont 3e, mais ils sont déjà éliminés.
Éliminés, excuse-moi.
Le Burkina Faso et le Gabon sont qualifiés. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire a écrasé la Sierra Leone 5-1. Et le Cameroun a battu la République démocratique du Congo 1-0 et s'est qualifié. Et la qualification va se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Et le prochain match sera Cameroun-Côte d'Ivoire, pronostic. Côte d'Ivoire-Cameroun.
Le Cameroun a mis une grosse fessée à la Côte d'Ivoire d'Hervé Renard au match aller.
Les Ivoiriens vous
Moi, j'ai envie de dire autour d'Hervé Renard d'en mettre une au Camerounais.
Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire.
Match nul. Et bah, l'autre match du groupe D, République démocratique du Congo, Sierra Leone.
La victoire de la République du Congo.
Le Sierra Leone.
Match nul.
République démocratique.
Match pas facile à.
Vas-y, République démocratique du Congo.
Match pas facile à pronostiquer du fait qu'on connaît pas trop l'effectif et la qualité des deux équipes.
Ouais, mais si le Congo est quand même à la lutte avec.
D'ailleurs, à savoir que nous avons un joueur qui vient de la République du Congo dans notre sélection nationale, c'est Steve Mandanda.
Steve Mandanda.
Dans le groupe E, il n'y a toujours pour l'instant aucun qualifié, puisqu'il y a actuellement 2 points entre le premier et le Ghana et le. Quatrième, le Togo. Le Ghana a perdu 1-0 contre l'Ouganda et la Guinée a battu le Togo 4-1. Alors, pronostic pour vos qualifiés, Ghana, Ouganda, Congo ou Togo?
Bah, moi, je vois bien...
Guinée ou Togo, pardon.
Ah, c'est plus compliqué, mais le Togo est beaucoup trop fébrile d'après moi. Et donc, la Guinée, c'est pas la Guinée qui accueille?
Non.
Non. Bah, moi, je vois bien quand même le Togo quand même se qualifier, mais...
Le Togo se qualifiera et le Ghana également.
Le Togo jouera leur prochain match au Ghana.
Moi, le Togo va perdre.
Moi, je vois bien le Togo et le Ghana se qualifier.
Togo et Ghana aussi.
Bon, ça sera l'Ouganda et le Togo.
Moi, je pense que l'Ouganda et le Ghana vont se qualifier.
Dans le groupe F, la Zambie a battu le Mozambique 1-0 et le Cap-Vert a battu le Niger 3-1. Le Cap-Vert et la Zambie sont qualifiés.
Ah, le Niger ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations pour cette édition.
Ils n'ont que 2 points. Ils n'ont pas encore gagné. Et dans le groupe G, la Tunisie a fait match nul 0-0 contre le Botswana et le Sénégal a battu l'Égypte 1-0. La Tunisie et le Sénégal sont qualifiés pour la CAN.
L'Égypte, décevante désillusion. Ça sera intéressant à suivre quelque part. Et moins d'une autre, puisque donc cette Coupe d'Afrique se passe dans des conditions très difficiles, puisqu'il y a le virus Ebola, que notamment pour le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas joué avec eux le week-end dernier, du fait que le Dortmund a refusé de le laisser partir. Donc il y aura sûrement beaucoup de cas comme cela, donc de surprises à mon avis. Et les plus petits risquent d'être mis en avant lors de cette coupe, et c'est ce que je trouve très intéressant. Mais on pourrait aussi voir le refus de certaines nations de participer par ces États, peut-être qui refuseront par la suite de participer.
Surtout qu'en plus, qu'on sait qu'il y a des équipes qui peuvent encore se qualifier, qui ont le virus Ebola chez eux, la Guinée qui peut encore se qualifier, qui pourtant a le virus chez eux. Donc peut-être, pourquoi pas, et des équipes vont peut-être pouvoir, comme tu le dis, donc pas vouloir jouer parce qu'il y a la Guinée qui lui fera la CAN.
Donc oui, donc ce sera intéressant. Donc à mon avis, on peut avoir des refus de participer à la compétition qui sera suivi de sanctions à mon avis, tout comme le Maroc.
C'est quand même compréhensible. Si les joueurs africains ramènent Ebola en France et en Europe,
ce sera dramatique.
Ce sera dramatique. Moi, je pense que la santé passe avant tout.
C'est pour ça que je dis ça.
Ils ont du mal à comprendre en Afrique. Quoi.
Pour moi, le report de la CAN. Pour moi, le report de la CAN aurait été plus intelligent que de.
Moi, j'ai envie de dire que la parole doit être aux joueurs.
Ouais, mais c'est pas les joueurs qui.
Pas à la fédération. Ouais, mais... Si l'ensemble d'une équipe a envie de jouer et de prendre le risque, qu'elle le fasse.
Mais s'ils n'ont pas envie, qu'ils.
S'ils n'ont pas envie, voilà, qu'ils ne veulent pas prendre le risque, qu'ils ne le prennent pas.
Comme l'a fait le Maroc, à mon avis.
Quitte à ce qu'il y ait, pourquoi pas, une équipe B qui participe à cette compétition. Hein.
Comme l'ont fait le Maroc. Le Maroc ne voulait pas jouer avec Ebola. Et ça les a disqualifiés.
En tout cas, elle risque, malgré ce virus, d'être passionnante. Et on pourrait voir notamment les équipes 3e pour finalement se qualifier par refus du 1er ou du 2e. On ne sait jamais. Voilà, merci Valentin. Pas d'autres commentaires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et on va terminer donc sur la Coupe européenne.
Oui, le 16 novembre, donc c'était hier, les Pays-Bas ont fait chuter la Lettonie 6-0. Gros résultat, et Gustine qui avait dit « Si je perds, je démissionne ». Ils n'ont pas perdu.
Bon, il démissionnera dans pas longtemps.
Oui.
Si les Pays-Bas ne se qualifient pas, c'est ce qu'il fera.
La République tchèque s'est imposée 2-1 contre l'Islande, surprenant deuxième.
Non. Ils ont quand même fait
l'Islande surprenant deuxième.
Oui.
Non, ils ont quand même fait les barrages pour la Coupe du Monde. Ils auraient pu gagner.
Moi, je considère ils
auraient pu, mais ils l'ont pas fait.
Moi, je considère que c'est le fruit de leur évolution.
Oui, parce qu'à chaque fois, on
voit et de leurs efforts.
Les équipes, les espoirs, les moins de 20 sont souvent en finale de compétition européenne surtout européenne. Donc pour moi, c'est l'Islande, c'est normal qu'ils soient devant les Pays-Bas.
Et les derniers résultats de ce match de ce groupe, c'était Turquie-Kazakhstan, victoire de la Turquie 3-1.
Décevant.
Pour le Kazakhstan ?
Pour le Kazakhstan, parce que c'était un match finalement dans leur corde pour essayer de l'emporter, puisqu'on sait que la Turquie est à côté de la compétition.
Ouais, ils vont pas se qualifier, à mon avis.
Là, du coup, ils prennent 3 points, et si je ne me trompe pas, ils sont 4e.
La Turquie, oui, c'est exact. Donc, pronostic pour la 5e journée, Kazakhstan-Islande.
Islande. Au Kazakhstan. Islande.
Match nul.
Islande. Ça fait quand même deux matchs extérieurs pour l'Islande.
Oui, va falloir aller chercher un match nul, je pense.
République tchèque, Lettonie.
Victoire de la Lettonie.
La République tchèque, sans souci, à mon avis.
République tchèque à domicile.
La Lettonie a quand même 2 points. Donc voilà, j'attends leur première victoire.
La République tchèque pour moi. Et les Pays-Bas face à la Turquie. À domicile.
Victoire de la Turquie.
Match nul.
Pays-Bas. Donc, dans le groupe B, l'Israël s'est imposé 3-0 face à la Bosnie, qui est quand même une équipe qui a quand même participé à la Coupe du Monde 2014, au Brésil.
Et on n'a toujours pas gagné.
On sait que ces matchs sont toujours chauds à jouer, d'ailleurs.
Qui n'a toujours pas gagné, qui a fait 2 matchs nuls.
Et pourquoi pas,
on sait qu'il y a eu beaucoup de départs aussi de cette sélection depuis la Coupe du Monde. C'était une équipe plus ou moins âgée déjà.
Ouais, mais des cadres sont restés. Edin Dzeko, Miralem Pjanic.
Oui. Mais il y a des joueurs d'expérience aussi qui ont quitté. Il faut reconstruire, ça paraît normal.
Et pourquoi pas voir l'Israël en Euro? Ce serait une surprise.
Oui, déjà, le fait qu'ils aient banqué la coupe du Monde, alors qu'ils méritaient de se qualifier.
La Belgique qui cale face au Pays de Galles 0-0 en Belgique, donc c'est surprenant.
Surprenant, mais il ne faut pas oublier que le Pays de Galles est emmené par Gareth Bale.
Et Aaron Ramsey.
Comme la Belgique est emmenée par Eden Hazard.
Ouais, mais Hazard ne fait pas les performances qu'il fait à Chelsea.
C'est bien dommage pour la Belgique.
C'est une équipe belge est une équipe qui parfois peut être sur une série de matchs nuls, elle peut être aussi sur une série de victoires, et elle peut prendre une défaite inattendue.
Ce qu'elle a montré en Coupe du Monde, c'était pas non plus un grand jeu.
Mais c'était un jeu intéressant.
C'était un jeu intéressant, oui.
Et la surprise, j'ai envie de dire, parce que c'est une petite équipe, c'est Chypre qui s'impose 5-0 face à Andorre, qui n'est pas une grosse équipe.
Bah, Andorre ne gagne plus depuis des années.
S'ils ont gagné une fois.
C'est pas cette année.
Non.
Peut-être oui, les années avant. Mais...
On parlera justement des statistiques des autres groupes qui est intéressant aussi en termes de petite équipe. Et
pourquoi pas non plus voir Chypre en barrage.
Bah du coup oui, le rêve est permis pour cette équipe qui est troisième.
Devant la Belgique en plus.
Maintenant c'était un match et pour Andorre et pour Chypre très intéressant. Ça permettait à Chypre de s'imposer, d'espérer, mais en tout cas d'avoir une victoire et de pouvoir faire la fête. Et ça permettait à Andorre lui aussi d'espérer gagner. Pas de se qualifier, on le sait, mais de gagner. On verra aussi le match retour, c'est intéressant à voir.
Donc, pronostic Andorre-Bosnie, les deux derniers du groupe.
Bah, la Bosnie doit s'imposer à partir du moment où Chypre s'impose.
Mais après, là, Andorre est à domicile, donc peut-être que...
Oui, mais non, je pense que Bosnie va s'imposer quand même.
La Bosnie.
Israël-Pays de Galles.
Match nul.
Les deux premiers.
Match nul.
Pays de Galles.
Et Belgique-Chypre.
Match nul.
Donc dans le groupe G, l'Autriche s'est imposée 1-0 face à la Russie. Le Liechtenstein s'est imposé 1-0 face à la Moldavie.
Petite surprise, oui. La Moldavie qui n'a pas fait non plus un mauvais début, mais ils sont derniers, si je ne me trompe, avec un point.
Tu ne te trompes pas.
Oui.
Et le Monténégro qui a réussi à accrocher la Suède de Zlatan Ibrahimovic, un but partout.
Moi, je trouve ça plutôt logique.
Pourquoi pas voir le Monténégro comme pour la Coupe du Monde où ils étaient.
C'est une bonne équipe, mais qui a jamais de chance au niveau des groupes. Ils étaient tombés face à l'Angleterre.
Mais l'année dernière,
l'Angleterre et l'Ukraine pour la Coupe du Monde. Voilà.
L'année dernière, c'était quand même le Monténégro et l'Ukraine qui devaient finir dans les deux premiers.
Oui, avec
L'Angleterre ne méritait pas et encore une.
Le Monténégro a montré de belles choses.
Oui, ils ont même longtemps été premiers du groupe. Voilà, l'Ukraine s'est qualifiée dans les derniers matchs, mais c'est l'Angleterre qui méritait pas du tout de se qualifier.
Dans le groupe H, l'Azerbaïdjan s'est incliné 1-0 face à la Norvège.
Dommage pour l'Azerbaïdjan.
Qui est bon dernier du groupe. Avec
0 points.
0 points. Et 11 buts encaissés, c'est beaucoup.
C'est quasiment autant que Samarin, tu vois.
Samarin qui a accroché un résultat 0-0.
Et en 13 années, Samarin a son premier point.
Enfin, l'Estonie, c'est vrai que c'est pas élevé non plus, mais c'est dommage.
Pour l'Estonie. 13 ans.
Enfin, c'est bien pour Samarin aussi.
Samarin,
pourquoi pas le déclic pour des victoires après.
Je pense qu'il faut pas espérer, mais. C'est en tout cas 13 ans.
C'est beaucoup.
61 défaites. Matchs,
61 défaites, je crois.
D'affilée, voilà.
C'est beaucoup.
Donc voilà pour Samara. Félicitations à ces joueurs. C'est un match nul aux odeurs de victoire.
Ils faisaient la fête dans le vestiaire.
Il y a de quoi.
La Bulgarie qui s'est fait accrocher à domicile 1-1 par Malte.
Surprenant, Malte aussi.
Premier point de Malte dans le groupe.
Pourquoi pas aussi voir après enchaîner la victoire.
Et l'Italie qui a calé face à la Croatie, un but partout.
Logique.
La Croate, oui.
Les Croates qui sont premiers, égalité de points avec l'Italie.
Ils sont sur la lancée de la Coupe du Monde.
Et moi, je fais très attention à une équipe, c'est la Norvège. Troisième à un point seulement des deux premiers, donc l'Italie et la Croatie.
Après, le troisième est en barrage.
Le premier qui perd, c'est le premier qui lâche.
Bah, faut croire aussi que
la Norvège est dans une position idéale.
La Norvège a quand même perdu deux fois, c'était la Croatie et l'Italie.
Non, ils ont perdu une fois.
C'était l'Italie.
Je crois que c'était sur un petit score 2-0 ou 1-0, je sais plus.
En Italie, je pense. Oui.
le match retour est permis pour tout espoir de chacune des équipes.
Dans le groupe de l'Espagne, l'Espagne a fait match, a gagné 3-0 face à la Biélorussie avec un super but de Isco.
Oui.
À voir, c'est vraiment un très beau but.
Match plus ou moins simple pour les Espagnols.
L'Ukraine s'est imposée 3-0 face à au Luxembourg.
Logique.
Et la Macédoine s'est inclinée 2-0 face à la Slovaquie.
Enfin, l'Espagne, ils sont souvent aussi avantageux dans leur groupe. Même si avant, il y avait eu la France pour la Coupe du Monde, mais quand même.
Moi, je pense que l'Espagne ne doit pas se qualifier.
Au classement, donc premier la Slovaquie, deuxième l'Espagne, égalité de points avec l'Ukraine qui est troisième. Derrière, c'est la Macédoine,
pourquoi
quatrième,
pas la Macédoine,
la Biélorussie cinquième et le sixième, le Luxembourg.
Moi, je pense que les trois équipes de tête, c'est les trois équipes qui vont lutter pour se qualifier. La Macédoine peut espérer, c'est exact.
Je pense que la Slovaquie est bien partie pour, pour passer directement, sans barrage.
Elle le mériterait. Pour la deuxième place, à noter que l'Ukraine est à égalité de points avec l'Espagne.
C'est la différence de but que ça joue et l'Ukraine qui a la meilleure défense.
Je pense sincèrement que l'Ukraine va se qualifier à la place de l'Espagne. Ils ont
Là, il y aura les barrages pour l'Espagne s'ils sont troisième.
Oui, ils ont raté la Coupe du Monde. Je pense pas qu'ils vont rater l'Euro 2016.
Pronostic pour la prochaine journée, c'est la Macédoine face à la Biélorussie. En Macédoine.
Victoire de la Macédoine.
Macédoine, pour espérer la qualification.
Macédoine.
Et moi, je vais dire la Macédoine. La Slovaquie face au Luxembourg. Le choc des extrêmes.
La Slovaquie dans son élan.
Oui, la Slovaquie logiquement.
Slovaquie aussi.
Et puis, le match qui va déterminer...
peut-être...
Normalement, la deuxième place.
Espagne-Ukraine.
Espagne-Ukraine.
Match nul. Match nul ou victoire de l'Ukraine?
Victoire de l'Ukraine.
L'Ukraine.
Puis si la Slovaquie devait gagner contre Luxembourg, ils auraient gagné tous leurs matchs aller.
Voilà, donc...
Pour moi, ce sera victoire de l'Ukraine aussi en Espagne.
Et quelques résultats complémentaires, le Portugal qui s'est imposé 1-0 face à l'Arménie. Et Cristiano Ronaldo a dit si l'Arménie ne vient pas pour jouer, ça sert à rien qu'ils viennent.
Enfin, 15-0, ils ont gagné. L'Arménie joue là pour défendre.
Ouais, bah, c'est aucun intérêt. Aucun intérêt.
Bah, ils peuvent marquer en contre.
L'Allemagne qui a battu Gibraltar 4-0.
Oui, petit score.
Petit score au vu de l'équipe de Gibraltar.
C'est pas mal.
C'est pas mal. 4-0, ils ont limité la casse.
D'ailleurs, les Allemands, c'était chaud. Il y a eu un match espoir entre l'Allemagne et les Pays-Bas aussi en Allemagne. C'est 3 buts, mais alors 3 buts en lucarne. Des beaux buts. On te remercie. Puis à noter le match de l'équipe de France.
Le match de l'équipe de France, match nul, un but partout.
C'est décevant.
On ouvre le débat.
Un petit match nul, je trouve.
Réaction, commence par Elliot.
Bah, c'est un petit match nul. Il y a certaines erreurs au niveau des centres, comme le but, on le voit, normalement il n'a pas le temps de se retourner au bord de la surface comme ça.
C'est de la faute de Jallet, il n'a pas à le laisser partir comme ça.
Après Jallet, c'est une erreur, ça qui coûte un but, mais sinon il a fait un bon match dans l'ensemble.
Il fait un bon match.
On ne peut pas reprocher à Jallet, il y a aussi Varane qui n'a pas été...
Qui n'a pas fait son meilleur match.
Pogba sur le but.
Il est pour lui. Il est pour le marquage. Hein.
Puis il n'a pas été non plus extraordinaire dans le match.
Les points positifs, ils sont sûrement pour.
Lloris, Griezmann. La France aussi.
Griezmann.
C'est pas le plus gros point positif, mais Griezmann. Et Kurzawa aussi.
Il faut attendre quand même l'entrée de Griezmann pour voir du jeu.
Je pense que Griezmann pourrait devenir maintenant un titulaire indiscutable.
Le point décevant.
Est-ce que t'as vu les stats? 7 titularisations, 0 but. 6 entrées en jeu, 5 buts.
De qui?
Pour Griezmann.
Mais après, tu fais titulariser Griezmann, le jeu va être plus là que quand il se fait rentrer.
Voilà, c'est comme Benzema. On peut reprocher quelque chose à Zidane. À Griezmann, mais Benzema a quand même été longtemps sans marquer de but. Et encore une fois, il a raté une occasion immanquable devant le but.
Et la dernière fois, il en a loupé une poupée contre l'Albanie.
Il l'a foutu au-dessus. Il était
à 3 mètres du but.
Réaction donc Enzo sur l'ensemble.
Match décevant mais bonne rentrée de Kurzawa et Griezmann.
Valentin.
Match décevant mais à chaque fois que la France a battu un gros contre l'Espagne, ils ont fait match nul contre la Serbie, contre le Portugal, ils ont fait match nul après contre l'Albanie. Donc après ils restent dans leur logique. Mais bon, je pense que Deschamps, vu du match contre le Portugal et l'Espagne, a peut-être trouvé son équipe. Je pense que s'il fait tourner, ça va pas trop.
Moi je pense que Deschamps justement essaye de trouver les joueurs idéaux pour 2016.
Il avait testé un nouveau système de jeu, le 4-4-2 en losange, c'était osé.
Oui.
Ça a pas marché.
Moi j'ai trouvé un manque d'application de la part de l'équipe de France. L'Albanie méritait pour moi de s'imposer, tout simplement. il y avait l'envie de
leur côté. Ils ont eu les plus grosses occasions.
Sans compter sur la très bonne performance d'Hugo Lloris quand même. En deuxième mi-temps.
Oui, il a sorti un gros arrêt en première, deux en deuxième.
Il en sort plusieurs en deuxième.
Moi, ce que je reproche, c'est le capitanat de Lloris, parce que l'équipe de France, jusqu'à l'entrée de Griezmann, était désordonnée. Et je trouve qu'en termes de capitanat, il n'a pas été au top niveau. Par après, contre, je ne reproche pas ses performances lors du match.
Après, il est gardien, c'est difficile de l'entendre au bout du terrain.
Oui, mais il a la vision sur le jeu, il est censé.
Quand des gens
disent je mets Lloris capitaine, je vois pas pourquoi je l'enlèverais. Ouais, mais Dylan. C'était Matuidi était pas mal non plus. Hein.
Ça, Dylan, en tant que gardien, on est bien placé pour le savoir. Que c'est pas toujours évident de replacer ces joueurs, même si t'as toujours la vision du jeu.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord sur ça. Mais
dans un grand stade comme ça où t'as beaucoup de bruit aussi, c'est pas forcément évident.
Je dis ça par rapport à ce que justement Deschamps a dit dans la semaine au niveau du capitanat de l'équipe de France. Je pense qu'il faut pas rester seulement sur Hugo Lloris. Après, les choix seront faits, on verra ce que ça donnera. Si Deschamps le fait, c'est qu'il faut le faire. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Parlons Foot 97.9 FM, fréquence CIE. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.